Bonjour, je voudrais faire une lecture dans Jean chapitre 4, verset 31. Mettons le verset 30. 4, 30. Je commence. Ils sortirent de la ville et ils vinrent à lui. C'étaient les disciples. Pendant ce temps, les disciples, donc, le pressaient Jésus de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un l'aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Pendant des siècles, les hommes et les femmes sur toute la terre ont cherché la signification de leur existence mortelle et quelle était leur place dans tout cela. Et si l'on cherche ça, mes frères et sœurs, c'est parce que Dieu a mis dans l'homme cette recherche, ce questionnement. Quand Jésus est venu sur la terre, quand Dieu est venu sur la terre dans un corps d'homme, dans la même condition mortelle que la nôtre, il a dit, celui qui cherche, il trouve. Vous voyez, la connaissance de tous les questionnements que nous avons en nous, cette connaissance, elle est accessible à toute l'humanité. Cette connaissance, elle est contenue dans des vérités qui sont absolument éternelles. Dans la Bible, on trouve, quand on cherche, que le Seigneur est Dieu. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et mes frères et sœurs, ce témoignage du Saint-Esprit est vrai, et cette vérité, elle demeure pour l'éternité. Nous trouvons aussi dans la même Écriture que le ciel et la terre passeront, et la vérité, triomphalement, sera seule à régner désormais. Les terriens demandent souvent, mais pourquoi est-ce que vous dites que la vérité est dans la Bible? Comment est-ce que vous pouvez être certain que les écrits sont ce que le Créateur veut que nous sachions, que nous croyons? Et frères et sœurs, la vérité, c'est comme je vous disais il y a quelque temps en arrière, là, c'est la connaissance des choses telles qu'elles étaient, telles qu'elles sont et telles qu'elles seront. Vous ne pouvez pas sonder cette vérité dans la plénitude si vous ne gardez pas les commandements de Dieu. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas la sonder. Ils ont une vérité là pour le moment, et puis elle peut changer parce que les choses changent. La vérité ne change pas. Les circonstances qui changent, la vérité est toujours la même. Jésus dit « Je suis la vérité ». On va revenir à ça. Celui qui garde les commandements du Seigneur ici-bas, dans cette condition mortelle, sera immergé dans la vérité, jusqu'au point d'être glorifié dans la vérité, et puis jusqu'au point qu'ils connaissent tout. C'est pourquoi l'apôtre dit, l'homme spirituel juge de tout. Lorsqu'une personne a réellement été immergée dans la vérité, c'est plus nécessaire pour elle de s'aventurer sur des chemins, comment dirais-je, non balisés. Cette connaissance que tous les terriens cherchent, elle est révélée avec beaucoup de simplicité à ceux qui ont été immergés dans la vérité. Et ils ont été immergés parce qu'ils ont été obéissants. L'apôtre Paul, l'apôtre dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui sont obéissants non seulement aux lois écrites de Dieu, mais obéissants à la loi de l'Esprit. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est cela. La loi écrite peut tuer, mes frères et sœurs. Si l'esprit qui a donné cette loi n'inspire pas celui qui la découvre, alors n'étant pas immergé dans la vérité, Jésus dit « Je suis la vérité », n'étant pas immergé en Jésus, n'étant pas en Jésus-Christ, une telle personne va se mettre à patauger dans un espèce d'intellectualisme pseudo-spirituel qui flatte son ego, mais qui ne le rend pas libre. En fait, il est esclave Et il cherche à rendre les autres aussi esclaves. On appelle ça le légalisme. Mes frères et sœurs, la vérité, c'est une personne. Et c'est la connaissance de cette personne qui est la libération du mensonge. Parce que le mensonge aussi, c'est une personne. Le père de cette personne, c'est le serpent ancien. Il est le père du mensonge. Et Dieu a commencé son œuvre, après la chute des terriens, une œuvre de restauration. Et l'homme a redémoli, et Dieu est en train de rétablir. Comme je vous enseignais ça dimanche passé, vous avez reçu la prêtrise, vous êtes un groupe de prêtres, comme je vous le montrais mercredi matin à notre réunion de prière au château. Vous avez tous reçu cette prêtrise d'Aaron, et en cela, vous avez l'autorité de pardonner ou de retenir les péchés. Vous avez accès au trône de la grâce pour intercéder. Vous êtes ministre de la réconciliation. Et à cette prêtrise sont rattachés les symboles comme le baptême. Vous pouvez baptiser les croyants dans le cadre de la communauté de Jésus-Christ. Vous pouvez accomplir des baptêmes à la place des morts, en tant que témoin, en tant que baptiseur, en tant que baptisé, vous avez cette autorité. Vous pouvez imposer les mains aux malades, tous ceux qui croient peuvent le faire, dans Marc, on le voit. Vous pouvez donner la Sainte Cène, vous pouvez laver les pieds de vos frères et sœurs, et beaucoup d'autres choses encore, et tout cela dans le cadre de son Église, pour l'édification du corps de Christ. Et vous avez, par la prêtrise d'Aaron, cette autorité, mais vous ne pouvez pas avoir accès au pouvoir du ciel qu'en fonction de votre justice personnelle. Vous ne pouvez pas avoir accès au pouvoir du ciel si vous n'êtes pas en ordre. Être prêtre, c'est avoir la responsabilité d'administrer la prêtrise. Mais aucun prêtre n'est la prêtrise. J'explique. Un homme n'a pas le pouvoir de faire un enfant sans une femme. Autre chose, je vais expliquer. Sur la terre, Jésus, notre divin époux, s'est limité à ne rien pouvoir faire sans le Père. Je continue maintenant. Nous, l'épouse de Christ, nous ne pouvons rien faire sans notre époux divin. Et notre époux divin ne crée que selon ce principe sacré du mariage, de l'unité. Il est patient avec nous, il nous aime et il crée avec nous, comme nous créons avec lui. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis là. Vous êtes prêtre avec une autorité, mais vous n'êtes pas la prêtrise à vous tout seul. Sans votre époux divin, vous n'avez aucun pouvoir du ciel. Ce n'est qu'en accord avec votre époux, c'est-à-dire selon les lois spirituelles écrites et selon l'ordre établi ici-bas dans son Église, que vous avez du pouvoir. Les autres pouvoirs sont des pouvoirs du menteur, des pouvoirs de mensonge. Et c'est là qu'intervient la prêtrise de Melchisédek, dont je vous parlais l'autre jour. Jésus-Christ a cette prêtrise, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ, par cela, est le garant d'une alliance plus excellente que fut celle de Moïse ou Aaron officier. Qui était ce Melchisédek? C'était un homme sans père et sans mère. Toute cette histoire, vous la trouvez dans les écrits intertestamentaires, qu'on a retrouvé dans les manuscrits de la Mer Morte. J'ai tout ça ici, c'est magnifique. C'est un peu long à vous raconter, mais l'apôtre Paul les avait, et c'est pourquoi il a pu dire, en lisant ces écrits-là, que Melchisédek était sans père ni mère. Dans la Genèse, Melchisédek apparaît dans un contexte d'une guerre, au cours de laquelle Abraham est un chef militaire. Il n'est pas le seul chef militaire, il y a d'autres chefs militaires, d'autres rois, et c'est là qu'Abraham sauve son neveu Lot, et Melchisédek apporte du pain et du vin, et il commence à bénir Abraham et à louer Dieu. Et Abraham lui donne la dîme de tout. Vous trouvez ça dans Genèse 14, 18 à 20. Alors, pourquoi Melchisédek apporte-t-il du pain et du vin? C'était bien longtemps avant Jésus-Christ, tout ça. Ils n'ont pas fait la Sainte Cène, là. Pourquoi pensez-vous qu'il a apporté du pain et du vin? Eh bien, c'était une coutume dans tout l'Orient à cette époque-là. Le pain et le vin symbolisaient une nourriture que l'homme peut faire lui-même. Alors que la viande et les fruits sont des produits communs aux hommes et aux animaux. Abraham avait délivré Lot, son neveu, c'était son œuvre. Mais Melchisédek dit, tu es béni parce que Dieu a livré tes ennemis entre tes mains. Vous voyez, l'action d'Abraham, père de la foi, notre père, le père de ceux qui ont la foi, l'action d'Abraham était rendue possible parce que Dieu intervenait avec Abraham. Abraham tenait son pouvoir de Dieu. Et Melchisédek en témoigne là par l'offrande du pain et du vin, qui sont, je le répète, la nourriture que l'homme mange après l'avoir fabriquée. Il se nourrit de cette chose qu'il a faite. Abraham a fabriqué la délivrance de Lot, oui, mais par le pouvoir de Dieu. Jésus nous a sauvés, oui, mais par le pouvoir de Dieu. Nous chassons les esprits impurs, oui, mais par le pouvoir de Dieu. Nous vivons en communauté, oui, mais par le pouvoir de Dieu. Nous guérissons les malades au nom de Jésus, oui, par le pouvoir de Dieu. Sans le pouvoir de Dieu, nous ne pouvons rien faire de tout cela. Nous avons ce pouvoir parce que nous avons l'autorité. Mais même si nous avons l'autorité, nous ne pouvons pas avoir le pouvoir si nous ne sommes pas immergés dans l'Esprit de Dieu qui est amour. Et on ne peut avoir ce baptême, cette immersion, que si on est obéissant. Rappelez-vous, Paul dit, obéissant à l'ordre établi selon Dieu dans l'Église de Jésus-Christ, et non obéissant selon l'ordre établi selon les Nicolaïtes, parce qu'il y a un ordre établi dans la véritable Église, mais ce n'est pas l'ordre qui est établi par les Nicolaïtes qui veulent dominer sur le peuple. C'est essentiel que vous sachiez que Dieu vous a donné le pouvoir d'accéder au pouvoir de la prêtrise. Et que ce pouvoir réside dans votre obéissance à la parole écrite et à l'ordre établi dans l'Église. Frères et sœurs, le pouvoir de la prêtrise doit être utilisé pour aller au secours des faibles. Et là, quand vous utilisez ce pouvoir pour les faibles, eh bien vous êtes comme et vous êtes avec Jésus, qui est un semeur de bonnes semences. Dans le monde matériel, vous avez tous fait cette expérience quand vous étiez gamin, je pense. À l'école, on vous a donné, moi c'était une semence de tomate. Et alors on m'a dit, faut la mettre dans la terre, faut l'arroser, faut qu'elle ait la lumière, hein. Et puis tu vas récolter une plante de tomate, et puis si tu t'en occupes bien, si tu en as soin, ça va te donner plein de tomates. Et dans ces tomates, ben, il y aura des autres semences, beaucoup de petites semences comme celles que tu vas semer. Et si tu replantes toutes ces semences, eh bien tu vas avoir encore plus de tomates. Et puis si tu replantes encore les semences qui sont dans toutes ces tomates-là, ben, tu vas finir par avoir des millions de tomates. Et tout ça grâce à cette petite semence que tu vas planter au départ. Voilà, la maîtresse expliquait ça. La vie, elle est dans la semence, dans toutes les semences, mais rien ne pousse si vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Vous pouvez les manger, les graines, hein. Ça va pas donner les tomates. Si vous ne faites rien de ce que Jésus dit de faire, ce sont des millions de tomates qui ne verront jamais le jour. Si vous semez, mais que vous ne prenez pas soin de ce qui est en train de pousser, que vous ne l'arrosez pas, que vous le mettez dans un coin ténébreux où il n'y a pas de lumière, ça va faner. Et c'est des millions de petites tomates qui ne vont jamais voir le jour, à cause de votre négligence. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Vous êtes une semence, vous-même, à semer. Mais vous êtes aussi un fruit, le résultat de ce qui a été semé avant vous. Et puis vous avez des semences en vous. C'est-à-dire que vous avez des possibilités, un potentiel illimité. Mais si nous ne prenons pas garde à ce potentiel, nous pouvons faner et nous pouvons perdre la vraie doctrine, celle de la semence qui doit être semée dans les règles et qui doit être entretenue. C'est ça ce que j'appelle la vraie doctrine. Mes frères et sœurs, et pas que celle-là, mais bon. Mes frères et sœurs, ceux qui détiennent la prêtrise et ne font pas leur possible pour l'honorer, en servant leur famille, en servant leur communauté, en servant leurs prochains, comme il faut, avec amour, eh bien, ils seront comme ceux qui ne reçoivent pas les bénédictions du pouvoir de la prêtrise. Ils vont se faner spirituellement. Et pourquoi? Parce qu'ils se seront privés des nutriments spirituels essentiels, la lumière et le pouvoir de Dieu dans leur vie. Souvenez-vous que Jésus a dit, et c'est ce qu'on a lu au commencement, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. » C'est votre part. Jésus ne fera pas si vous ne faites pas. Il a dit ce que nous avions à faire, nous devons le faire. Écoutez, j'ai reçu l'autorité pour prier pour les malades. Bon, si je ne le fais pas. Hier, nous étions, mon épouse et moi, avec une femme, pasteur, et nous étions en train de parler, et nous rendions des témoignages. Et tout à coup, cette sœur dit, mais je voudrais que vous priez pour moi, j'ai une arthrose cervicale qui me fait tellement souffrir, et dans les bras, dans le cou, et tout ça. Alors, j'aurais pu dire, d'accord, on va prier. Mais j'ai pas fait ça. J'ai d'abord semé dans son cœur des paroles de foi. Pour en arriver au point de dire, il ne peut pas rien se passer. Quelque chose va arriver. Et cette femme était tellement réceptive, elle a tellement, c'était une bonne terre, et les semences que je mettais étaient des bonnes semences de la parole de Dieu. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Il faut faire les choses comme il faut. Beaucoup trop de gens prient pour les malades sans enseigner d'abord. L'enseignement, c'est pas une perte de temps, c'est vous poser des semences qui vont croître. Il ne peut pas rien se passer. Nous avons prié, j'ai chassé cet esprit de maladie, et cette femme a dit, mais c'est un miracle, elle pouvait bouger, et c'était magnifique, elle a rendu grâce, gloire à Dieu et tout. Qu'est-ce que vous pensez que moi j'ai ressenti? Ah, ça valait un bon repas, je vous promets. Ma nourriture, c'est de faire ça. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand on fait la volonté de Dieu, on est rempli. Mes frères et sœurs, vous avez tous cette autorité. Maintenant, pour avoir le pouvoir du ciel, pour exercer cette autorité, il vous faut l'obéissance. Avec cette obéissance, vous allez être plongé dans le Saint-Esprit, rempli dans le Saint-Esprit, et vous ferez les mêmes choses que le Seigneur faisait. C'est à cela qu'il nous appelle sur cette terre. C'est pourquoi il nous laisse sur cette terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre ces choses pour que vous puissiez les mettre en pratique, les vivre et rendre les gens autour de vous heureux. Que Dieu vous bénisse richement. Amen et Amen. Merci Jésus, merci Seigneur, de garder mes frères et sœurs dans ta paix et de les fortifier corps, âme et esprit. Et je te prie que ce que j'ai dit aujourd'hui là soit comme une bonne semence qui demeure dans leur cœur et qui porte du fruit. Merci Seigneur Jésus. Amen.